Il est 7h, bienvenue sur France Inter, bon réveil, bonjour à tous, nous sommes le lundi 27 décembre. Bonjour Laurence Thomas.
Bonjour Christelle, bonjour à tous.
À la une de l'actualité ce matin, l'exécutif presse le pas face à l'offensive Omicron. Quelles nouvelles mesures pour freiner la déferlante du nouveau variant? Réponse cet après-midi à l'issue du Conseil sanitaire de défense. Les autres titres, Laurence.
La ville chinoise de Xi'an durcit encore les restrictions, 13 millions d'habitants confinés et maintenant la désinfection totale de la ville. Une petite révolution pour les familles qui emploient une aide à domicile ou une femme de ménage. Elles pourront bénéficier d'un crédit d'impôt en temps réel. C'est l'un des changements du 1er janvier 2022. Un franco-syrien incarcéré en France, mis en examen pour complicité de crimes de guerre, il est soupçonné d'avoir fourni du matériel à l'armée syrienne. Et puis à la fin de ce journal, nous irons du côté de chez Marcel Proust.
Rendez-vous et invité de France Inter ce matin à 7h15, on les appelle les oreilles d'or. Dans le Zoom, toute cette semaine, nous vous proposons un bain auditif pour découvrir des femmes et des hommes experts du son. Une semaine ultra sonore de reportage après laquelle vous nous écouterez d'une autre oreille. À 7h50, le documentaire Rosie est à l'honneur avec sa réalisatrice Marine Barnerias. À 8h20, le point sur la situation sanitaire, la question de la vaccination des enfants. Question à l'épidémiologiste Dominique Costagliola et au professeur Robert Cohen. Il est pédiatre. Tous les deux sont dans le grand entretien. Ils répondront aussi à vos questions. Appelez-nous dès maintenant. Le standard est ouvert au 01 45 24 7000.
France Inter.
À quelles restrictions les Français seront-ils soumis pour le nouvel an? La question est dans tous les esprits, y compris au sein du gouvernement, surtout au regard des derniers chiffres. Plus de 100 000 nouveaux cas samedi, du jamais vu dans l'Hexagone depuis le début de l'épidémie. Plus de 3 000 patients également se trouvent en réanimation. Alors le Conseil de défense sanitaire, présidé en visioconférence depuis le fort de Brégançon par Emmanuel Macron, va devoir réévaluer la situation et trancher parmi les nombreuses options possibles, Simon Le Baron.
Comment freiner l'épidémie sans mettre à bas l'économie? Question centrale de ce Conseil de défense. Les règles d'isolement devraient donc être assouplies pour contrer la vague d'absentéisme qui commence à toucher entreprises et services publics. Autre motif d'inquiétude, le nouvel an. Comment éviter qu'il vire au cluster géant? Jean Castex a déjà annoncé l'interdiction des grands rassemblements. Faut-il aller plus loin? L'hypothèse d'un couvre-feu sera sur la table pour la soirée du 31. Mais le gouvernement pourrait continuer de miser sur la responsabilité individuelle. La vente des autotests en grande surface sera d'ailleurs évoquée, ce que réclament depuis des mois les patrons d'hypermarché. Quant à la rentrée scolaire, un retour en classe repoussé d'une semaine sera bien étudié, mais l'exécutif souhaite toujours l'éviter. À l'Élysée, on souligne que la vaccination reste le pilier de la stratégie gouvernementale. Les proches du président mettent en avant les bons chiffres, des rappels comme des premières doses, mais on confie aussi garder un œil très attentif sur les restrictions fortes remises en place par certains de nos voisins.
Simon Le Baron, et ce conseil sanitaire sera suivi dans la foulée d'un conseil des ministres. Un conseil des ministres entre Noël et le jour de l'an, c'est la preuve que la situation est pour le moins, disons, délicate. Et là, à 17h, il sera question de la transformation du pass sanitaire en pass vaccinal pour la mi-janvier. Cette obligation vaccinale déguisée, selon les propres mots du ministre de la Santé, doit mettre la pression sur les quelques 6 millions de Français qui n'ont pas encore reçu d'injection. Autrement dit, dans certains endroits, il faudra impérativement être vacciné pour pouvoir entrer. Les PCR et antigéniques ne suffiront plus. Les avis sont encore partagés, comme l'a constaté William Guécosta dans les rues de Besançon.
Pour beaucoup comme Jean-Louis, le pass vaccinal est une mesure qui s'impose.
Je pense qu'il le faut. C'est une mesure d'égalité pour tous, pour le bien-être de tous.
Face au variant Omicron, Julien, un chirurgien dentiste de Besançon, estime, lui, qu'il faut impérativement mettre cette contrainte en place.
Il faut, à un moment donné, essayer de trouver toutes les solutions possibles, écouter les scientifiques, écouter les économistes, et puis prendre une décision politique, ce qui est le rôle du politique.
Mais cette décision d'instaurer un pass vaccinal, Paul la trouve justement encore trop timide.
Je pense qu'on aurait dû le rendre obligatoire dès le départ, parce que pour moi, effectivement, c'est une obligation déguisée pour un... En quelque sorte, c'est un peu complaisant. Essayer de déplaire à personne, mais en essayant de déplaire à personne, on finit par plaire à personne.
À l'inverse, certains y sont farouchement opposés, comme Martin, qui n'est pas vacciné et qui ne comprend pas l'utilité sanitaire de la mesure.
Au niveau de la gestion du risque, je trouve que c'est totalement disproportionné de faire ce choix. On nous dit que c'est un vaccin, mais les gens qui l'ont l'attrapent quand même. Moi, il faudrait qu'on m'explique en fait la logique dans leur raisonnement.
Et Martin l'assure, même si le texte est adopté, il ne se fera pas vacciner.
William Guécosta de France Bleu, Besançon.
Certains Chinois l'appellent déjà la nouvelle Wuhan. La ville de Xi'an, dans le centre du pays, est confrontée à un inquiétant retour de l'épidémie de Covid.
Le nombre de cas ne cesse d'augmenter de jour en jour et les autorités chinoises veulent tout faire pour éviter tout foyer d'envergure avant les JO de février. Xi'an est pourtant situé à environ 900 km des sites olympiques. Les 13 millions d'habitants sont pourtant déjà confinés, mais de nouvelles mesures encore plus drastiques ont été annoncées hier soir. Bonjour Sébastien Berriot, vous êtes le correspondant de France Inter à Pékin. Sébastien, c'est maintenant la désinfection totale de toute la ville qui a démarré hier soir.
Oui, bonjour. Effectivement, ce sont des milliers d'agents en tenue de protection intégrale qui sont déployés partout sur la voie publique à Xi'an, comme des bataillons armés de diffuseurs de produits désinfectants. Ils progressent dans les rues et les résidences pour nettoyer les moindres recoins. Depuis hier, le confinement est plus sévère. Une sortie est possible par foyer pour aller faire les courses tous les 3 jours. Au lieu de 2 auparavant. Nous avons joint au téléphone un habitant de Xi'an, Le, 38 ans, qui lui est totalement confiné parce qu'un cas positif a été signalé dans sa résidence.
Les habitants n'ont même pas le droit de descendre pour se promener dans le jardin de la résidence. La seule sortie, c'est pour se faire dépister. Les résidents se dirigent vers la file d'attente, chacun à leur tour à une heure précise, bâtiment par bâtiment. Pour le ravitaillement, il y a une épicerie provisoire en bas de l'immeuble tous les jours entre 14 et 16 heures. Après notre passage, l'épicerie est désinfectée.
La municipalité n'est pas du tout optimiste à court terme. Un porte-parole a expliqué hier soir qu'un grand nombre de nouvelles infections devraient encore apparaître dans les prochains jours. Tous les quartiers de la ville sont touchés. Les 13 millions d'habitants sont testés en continu pour tenter de colmater cette brèche très sérieuse dans la politique chinoise du zéro Covid.
Sébastien Berriot en direct de Pékin. En bref, le Covid dans le monde, 8000 vols ont été annulés par les compagnies aériennes pour ce week-end de Noël. Trop de personnel navigant contaminé ou cas contact. À New York, la moitié des admissions à l'hôpital concernent les enfants de moins de 5 ans, trop jeunes pour être vaccinés. Et puis plus de 60 navires de croisière dans le monde sont contaminés. Et selon le Washington Post, ces bateaux se sont vus refuser l'escale dans plusieurs ports des Caraïbes.
En France, on fait un gros plan sur les changements à suivre. Au 1er janvier, les ménages par exemple qui emploient une aide à domicile seront éligibles au crédit d'impôt en temps réel.
C'est-à-dire plus besoin d'avancer les charges si vous employez une femme de ménage, une garde d'enfants, un soutien scolaire ou une aide pour le jardinage. Vous paierez seulement votre reste à charge. Jusqu'à présent, il fallait attendre l'année suivante, au moment de la déclaration d'impôt, pour se faire rembourser 50% de la somme. Cette mesure concerne beaucoup de monde, Kathleen Comte, puisque selon la FEPEM, la Fédération des particuliers employeurs de France, un Français sur 4 a été et ou va être particulier employeur.
Christelle vit dans les Yvelines. Elle travaille à plein temps. Alors pour l'aider dans son quotidien, elle emploie une femme de ménage 3 heures tous les lundis qu'elle paye 15 euros de l'heure plus les charges. Tout est déclaré sur le site du CESU, chèque emploi service universel. Une dépense non négligeable pour cette infirmière.
Déjà c'est un luxe, hein. Donc on prenait ça sur notre budget, mais je trouve que quand on travaille tous les deux à temps plein, mais au moins la maison est propre. C'est vraiment un budget quand même important.
Pour Christelle, l'avance immédiate du crédit d'impôt payé par l'État tous les mois est une bonne nouvelle.
Ça peut être positif. En fait, le fait de ne pas avancer, cela va nous garder de l'argent en fait dans le foyer pour faire autre chose.
Et pourquoi pas embaucher une autre personne ?
Je songeais prendre quelqu'un pour aller chercher mon fils à l'école et le gérer le soir pendant 2 heures.
Ce crédit d'impôt immédiat va aussi permettre de lutter contre les emplois non déclarés dans le secteur. Selon Marie-Béatrice Leveau, présidente de la FEPEM, la Fédération des particuliers employeurs de France, on en compte encore environ 18%.
En dehors du fait que ce soit illégal, que les droits sociaux de votre salarié à la retraite, etc., n'existent pas, c'est la façon la plus directe de dire si vous ne déclarez pas, vous perdez de l'argent. C'est simple.
Selon la FEPEM, 3,5 millions de particuliers employeurs vont pouvoir bénéficier de ce crédit d'impôt immédiat au 1er janvier.
Kathleen Comte, vainqueur sur tapis vert ou match à rejouer? 10 jours après les incidents en tribune lors du match de Coupe de France entre le Paris FC et Lyon, la commission de discipline de la Fédération française de football auditionnera ce matin à 10h les différentes parties. Elle doit décider du sort de la rencontre et d'éventuelles sanctions. Un franco-syrien de 59 ans, soupçonné d'avoir fourni à l'État syrien du matériel pouvant servir à confectionner des armes chimiques, a été placé en détention provisoire hier. Il est mis en examen notamment pour complicité de crime contre l'humanité, complicité de crime de guerre. Une enquête a été ouverte il y a 4 ans et depuis, Mathilde Vinceneux, l'homme était recherché par les enquêteurs français.
Ce dirigeant d'une société internationale résidant à l'étranger est arrêté mardi dernier alors qu'il est de passage dans le sud de la France. Selon une source judiciaire, il était dans le viseur des enquêteurs depuis que le Trésor américain, qui s'occupe des sanctions financières, avait placé son entreprise sur liste noire pour son soutien au régime de Bachar el-Assad, c'était en 2016. En 2017, une enquête préliminaire est ouverte en France. Elle est confiée l'année d'après à des juges d'instruction du tribunal judiciaire de Paris. Ce que l'on sait, c'est que ce franco-syrien est soupçonné de s'être servi de sa société pour faire parvenir à l'une des structures de l'État syrien du matériel connu pour servir à l'élaboration d'armes chimiques. C'est la première personne mise en examen dans cette affaire. Depuis le début de la guerre en Syrie, il y a 10 ans, le régime de Bachar el-Assad est régulièrement accusé d'avoir recours aux attaques au chlore, au gaz sarin contre sa population. En août 2013, une attaque dans la Ghouta près de Damas avait fait 1200 morts.
Mathilde Vinceneux.
Et pour terminer, Laurence, une plongée dans le Paris de Marcel Proust.
Et c'est au musée Carnavalet à l'occasion du 150e anniversaire de la naissance de l'auteur d'À la recherche du temps perdu. L'institution du quartier du Marais dédiée à l'histoire de la capitale consacre une très belle exposition sur ces lieux parisien où Marcel Proust a vécu, flâné et surtout ces lieux qui l'ont inspiré. Un voyage dans le Paris de la Belle Époque sur les pas du célèbre écrivain dont le musée possède des objets personnels émouvants, Isabelle Pasquier.
Dans l'univers de Proust, Paris fonctionne comme un personnage qui aimante les rencontres, les sentiments. L'exposition nous fait dériver entre le Paris réel de Proust, confiné dans l'ouest de la capitale et plus tard dans sa chambre du boulevard Haussmann, et le Paris fictionnel sur les traces d'Odette Gilberte ou Albert.
Je ne traversais pas les mêmes rues que les promeneurs qui étaient dehors ce jour-là, mais un passé glissant, triste et doux. Il était d'ailleurs fait de tant de passés différents qu'il m'était difficile de reconnaître la cause de ma mélancolie.
À travers cette mélancolie proustienne se dessine une topographie sentimentale. Anne Lorsol signe l'exposition.
Les Champs-Élysées, c'est un endroit crucial. C'est là qu'il fait l'expérience de l'amour et qu'il s'éprend de Gilberte. On pense également au Bois de Boulogne, qui est un endroit qui lui permet d'épier Odette lors de sa promenade ou de donner rendez-vous à des femmes. Le Bois de Boulogne, lieu du désir. Et Paris sert de cadre à cette réflexion sur le passage du temps, sur le sens de l'existence.
La chambre de Proust a été reconstitué avec son vrai lit, son encrier. Le plus émouvant, ses corrections de la recherche sur un cahier d'écolier. Enfin, un procès-verbal, objet incitation à la débauche avec de jeunes garçons à l'hôtel Marigny, qui sera baptisé le temple de l'impudeur. Chez Proust, le réel et le romanesque sont à la recherche d'un même Paris perdu.
Isabelle Pasquier, la ville lumière dans la vie et dans l'œuvre de Marcel Proust, c'est jusqu'au 10 avril au musée Carnavalet.
Merci Laurence Thomas. Dans 3 minutes, le Zoom, premier épisode de notre série sonore Les Oreilles d'Or, dans les profondeurs ce matin, Les Oreilles d'Or de la Marine.